discours d'éthique religieuse par le père Philippe à Saint-Jodard, le 30 octobre 1991.
Devient métaphorique. Et ça a pénétré en scolastique un mode métaphorique. Vous comprenez que si la causalité finale a un mode métaphorique, je ne peux pas m'appuyer sur la causalité finale pour découvrir l'essence de Dieu. Ce serait métaphorique. Ce serait me servir de mes nostalgies. Mes nostalgies sont métaphoriques. J'ai une nostalgie ce matin. Une nostalgie terrible. De devenir un grand homme. Nostalgie. C'est métaphorique. C'est pas réel. C'est dans l'imaginaire. Alors le jour où la causalité finale est devenue métaphorique, elle est exclue de la métaphysique. Elle est exclue des voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Et je construis toute ma philosophie sur la cause formelle et la cause efficiente. Vous voyez, c'est une chose terrible. Si je réintègre la causalité finale à l'intérieur de la philosophie, comme une véritable cause, non seulement comme une véritable cause, mais comme la cause des causes, ce que dit saint Thomas, la causalité existe, la causalité efficiente n'existe que grâce à la causalité finale. Donc elle est cause des causes. Elle est cause ultime, qui permet à toutes les autres causes d'exister. Et condition sine qua non pour que toutes les autres causes. Donc, elles jouent un rôle fondamental dans l'ordre de la causalité. Si elles jouent un rôle fondamental dans l'ordre des causalités, il est normal que la partie philosophique qui repose entièrement sur la finalité, l'éthique, je retrouve dans mon expérience le fondement. Réfléchissez là-dessus, c'est capital. Bon, saisir comment l'expérience de l'éthique, le point de départ, la philosophie part de l'expérience. L'expérience touche le fondement et ce qui donne la force à l'éthique. Si vous n'avez pas cette expérience, mais vous ne pouvez absolument pas comprendre ce que c'est que l'éthique. Ou alors, puisque de fait, vous supprimez la finalité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne chercherez plus que le fondement. Toute la philosophie contemporaine est une philosophie des fondements. Foucault, qui est le champ du cygne de la philosophie européenne. C'est la philosophie. Une philosophie archéologique, de méthode archéologique, qui cherche les fondements. Pour l'archéologue, c'est ce qu'il fait. Il découvre une ville. Il découvre fondamentalement une autre ville. Et puis il remonte tout le temps. Jusqu'au moment où il touchera le roc sur lequel a été fondée la première ville. C'est une chose qu'il fait tant qu'il n'a pas touché le roc. Ses recherches archéologiques ne sont pas terminées. Et l'archéologie trouvera comme fondement la première pierre faite par l'homme qui repose sur le roc qui n'est pas fait par l'homme. Méthode archéologique. On cherche le fondement. Ça me frappe beaucoup parce que ça a pénétré même la théologie. On fait une théologie des fondements. Et non plus une théorie de la finalité. Hans Kuhn cherche le fondement du christianisme, indépendamment de la finalité. Il cherche le noyau primitif de la chrétienté. Et c'est ce noyau primitif de la chrétienté qui, pour lui, est la pierre angulaire, et qui n'est pas du tout la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est le Christ. Mais le Christ, il est fin et fondement. Vous pouvez dire que le Christ est pierre angulaire, mais en même temps, il est fin, il est l'époux. Vous voyez les comparaisons. Il est pierre angulaire et fondement. Donc, il est le fondement de tout l'édifice. Et il est la finalité. Ça, je ne peux pas nier. Il est en même temps aussi celui qui, en tant que tête, organise tout. surnaturel. Au point de vue, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir que de fait, une philosophie qui a perdu sa finalité est une philosophie qui nécessairement ne cherchera plus que les fondements. Alors il faudrait se demander, dans la philosophie hegelienne, qui est une philosophie de la vie, quel est le fondement de la vie spirituelle? Et si, au fond, dans la philosophie hegelienne, on ne retrouve pas la même chose, la finalité n'étant plus regardée, on ne regarde plus que le fondement. Quel est le fondement d'une philosophie dialectique? Mais ce sont les questions qu'on doit se poser, ça. C'est par là qu'on prend le taureau par les cornes et qu'on le secoue. Et qu'on voit ce qui se passe au point de vue de la pensée d'aujourd'hui. Donc, au point de vue éthique, l'expérience type sur laquelle se construit l'éthique, c'est l'amour d'amitié. Grosse objection, tout le monde n'a pas l'expérience de l'amour d'amitié. Donc, c'est une éthique aristocratique de l'amitié. À droite, ceux qui ont l'expérience de l'amitié, à gauche, ceux qui ne l'ont pas. En enfer, ceux qui sont en dehors des plans d'amitié. Au ciel, ceux qui ont des plans d'amitié. Et il y a des personnes qui chercheront toute leur vie l'expérience de l'amitié. Pourquoi? Parce que leur jeu a tout pris. Ils sont marqués par la philosophie contemporaine, Husserl. Bienheureuse l'Afrique qui n'est pas marquée par Husserl. Alors ils savent encore ce que c'est que l'amitié. Pauvre Europe qui est marquée par Husserl, qui ne sait plus ce que c'est que la amitié. Il n'y a plus que le jeu husserlien. Il faut essayer de comprendre ces choses-là. Parce que c'est capital. Si on ne saisit pas ça, on fait de la philosophie, ça ne sert à rien à notre vie. Alors que la philosophie doit être ce qui nous rend lucide. Je n'ai pas besoin, au sens très strict, comprenez bien ce que je dis, je n'ai pas besoin de la psychologie si j'ai une philosophie pénétrante. Je suis lucide. Mais comme je suis toujours un peu malade, j'ai besoin de la psychologie pour me guérir. Si je n'étais pas malade, j'en aurais pas besoin. Parce que la finalité expliquerait tout. Que cherche la psychologie? Est-ce qu'elle cherche la finalité? Non. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne cherche pas l'être, elle ne cherche pas la finalité. Qu'est-ce qu'elle cherche? Le conditionnement. Donc, elle cherche le fondement. Le conditionnement. Le conditionnement principal en psychologie, c'est quoi? Mon corps. C'est le fondement de ma psychologie. La philosophie du corps donne le fondement à la psychologie. À cause du corps, je suis un être terriblement complexe. Terriblement complexe. J'ai ma vie végétative, et ma vie végétative, je ne peux jamais l'arrêter. Je rumine tout le temps, j'ai deux estomacs. Je fais comme la vache. Je rumine tout le temps. Et j'ai des choses qui ne sont pas digérées. Et alors celle-là, je les digère indéfiniment. Ça revient tout le temps. Ce qu'on appelle des complexes. Non digestible. Ça n'a pas été assumé. Et pourtant, je le garde. Si je pouvais rejeter mes complexes, ah, ce que je serais allégé. Il faudrait inventer, vous voyez, la diarrhée des complexes. Alors à ce moment-là, je serais libéré de tous mes complexes et allégé. Mais c'est vrai, c'est ça qu'il faut comprendre. Le point de vue psychologique, c'est la philosophie du fondement. Et le fondement, c'est le corps. C'est le sensible, c'est l'imaginaire. C'est à cause du corps que j'ai l'imaginaire. Et les complexes se logent dans l'imaginaire. Et les complexes dans l'imaginaire font des réseaux infiniment complexes, un labyrinthe. Le labyrinthe de Nietzsche, c'est le labyrinthe de mon conditionnement. Et j'essaie de saisir les nœuds de ce labyrinthe. C'est extraordinaire de saisir ça comme ça. La finalité de la finalité. Bien, petit à petit, mon conditionnement multiple de ma jeunesse, où je n'avais pas découvert la finalité, on m'a dit, va en classe, tu dois aller en classe. Mais pourquoi maman allait en classe? C'est tellement bête d'aller en classe. C'est bien plus agréable de jouer. Jouer au moins, on a des petits camarades, c'est amusant. Aller en classe, tu dois aller en classe, tu dois aller en classe. Vous voyez, l'éthique de Kant, tu dois aller en classe. Parce que si tu ne vas pas en classe, tu resteras un imbécile, mais pas du tout. Si je ne vais pas en classe, je saurai ce que c'est que mes petits camarades. Tandis qu'en classe, on est tous sous la tutelle d'un maître. C'est pas drôle du tout. Alors, quand on était jeune, on n'a pas compris la finalité. On ne nous l'a pas apprise. Oh oui, on nous a bien dit, tu dois faire ça par amour pour le petit Jésus. Mais on n'a pas compris le lien. On était fidéistes. Dans le point de vue pratique, le petit Jésus, mais je ne le vois pas. Alors, si on a une grâce intérieure, c'est très bien, il est là intérieurement, je comprends, c'est pour lui que je fais tout ça. Mais autrement, je ne le vois pas. Alors, vous voyez, on a éduqué par le point de vue du fondement. Si tu ne fais pas ça, tu rates. Si tu ne fais pas ça, c'est conscient. Alors, la finalité, c'est l'amour. Le drame de notre Europe, c'est qu'elle a opté pour le fondement, oubliant la finalité. Ça, c'est le drame, au point de vue éthique. Alors, je comprends qu'on cherche indéfiniment le fondement. Parce que le fondement est tout. Alors, on le cherche. C'est quand on a une poutre dans l'œil, qu'on ne voit plus rien. Il y a une poutre dans l'œil de l'intelligence européenne. C'est le fondement. C'est ce fondement. Et on ne cherche plus que le fondement. Alors, c'est très important pour nous de nous libérer de ce fondement. Sans le détruire, il existe. L'attitude révolutionnaire, c'est de détruire le fondement. Tu dois faire ça. Oh, pas agréable du tout. Je veux me libérer. Philosophie de la libération. Et on prend le fondement de l'éthique, la liberté. Mais la liberté ne peut pas être le fondement de l'éthique. Parce que la liberté n'existe pas en dehors d'actes humains. Elle n'existe pas en soi. C'est important de saisir ça. Donc je pars de l'expérience. Alors quand vous me dites philosophie d'une élite, pourquoi pas? Si par une expérience importante, je saisis ce que c'est que l'homme dans ce qu'il a de plus profond. Le philosophe doit être un sage. Alors je dirais, tant que tout le monde n'est pas un sage, la philosophie n'a pas le droit d'exister. Oh, pardon. Même s'il y a très peu de sages, la sagesse existe. J'ai au moins un ou deux individus. L'amour d'amitié existe. J'ai l'un ou l'autre individu. J'ai une expérience d'amour. C'est suffisant pour faire de la philosophie éthique. Si vous n'avez aucune expérience d'amour, l'éthique reste lettre morte pour vous. La connaissance éthique n'est pas née. Mais si vous avez l'amour de vos parents, l'amour de vos frères et sœurs, l'amour d'amis, ah, c'est suffisant. Et puis vous verrez progressivement que c'est ça qui me permet de réfléchir sur mon acte humain. Si je n'ai pas cet amour, je ne peux pas réfléchir sur mon acte humain. Mon acte humain reste quelque chose de fermé, de lointain. C'est par l'amour que je peux analyser ce qu'est l'acte humain. L'acte humain prend toute sa signification par le point de vue de l'amour. Donc, vous voyez bien, ça c'est très très important, pourquoi je commence par l'amour d'amitié. Et devant cette objection de quelqu'un qui dit, je dis, mais écoutez, je peux faire la vie. philosophie de l'art alors que tout le monde n'est pas des artistes. Je reconnais que l'art existe. Je reconnais qu'il y a des... chez les hommes, ils sont parfaitement eux-mêmes quand ils peuvent se rencontrer dans l'amour d'amitié. Alors je découvre la personne humaine. La philosophie n'est pas l'expérience de l'imbécile. C'est une expérience de l'homme. L'expérience humaine. Alors parce que c'est l'expérience humaine, même si il y en a très peu, ça fait rien. Ça existe. Et le philosophe montrera l'importance de l'amour d'amitié pour frayer le chemin aux hommes. Vous avez quelque chose de très grand dont vous êtes capable, au point de vue humain. C'est l'amour d'amitié. Est-ce que vous avez essayé? Ah non. Si vous n'avez jamais essayé, c'est comme travailler. Le travail, il y a des hommes qui ne travaillent pas. Et qui n'aiment pas travailler. Et donc, ils ne savent pas du tout ce que c'est que le travail. Et ils ne seront jamais équilibrés. Le fondement de l'équilibre, c'est le travail. Un travail manuel ou un travail intellectuel. Le sérieux du travail. Celui qui n'est pas dilettante. Le dilettante, c'est celui qui, vous savez, il ne sait pas ce qu'il fait. Il va à droite, à gauche, il ne sait pas ce qu'il fait. Avoir des mœurs de travailleurs, c'est structurer en nous quelque chose de fondamental. C'est pas notre fin, mais c'est fondamental. Point de vue équilibre. Je ne dis pas que c'est le travail qui est le fondement de l'éthique. Non. C'est l'amour spirituel. Mais pour mon équilibre, donc pour éviter les psychologues, je travaille. Travaillez et vous n'aurez pas besoin de psychologue. Parce que là, vous marchez sur leur terrain. C'est notre expérience humaine la plus étendue. J'ai commencé à travailler très vite. À quel âge? Très très vite. Et je continue de travailler. Et toute ma vie, je travaille. Alors, je travaille comme une bête de somme, sans finalité. Pauvre Hésiode. Je travaille comme une bête de somme, sans finalité. Je travaille en découvrant une finalité. Alors, à ce moment-là, naît en moi quelque chose de plus grand que la bête de somme. Je tends vers la sagesse. Et mon travail est finalisé par une recherche de sagesse. Mais la plupart des temps, les hommes travaillent comme des brutes. Pourquoi? Ils ont perdu la finalité. Ils ont perdu le sens de la finalité. Donc ils ont perdu ce qui était capable d'être le levain dans la pâte. Qu'est-ce qui est le levain dans la pâte? C'est l'amour spirituel. C'est l'amour d'amitié. Ça fait le levain dans la pâte. Un père de famille qui aime ses enfants et son épouse travaille pour permettre à ses enfants et à son épouse d'avoir le pain quotidien, d'avoir un bene vivere, un bien vivre, construire sa petite maison, construire sa grande maison. Et on travaille pour ça, pour permettre un bien-être. Et ça donne au travail son sens. Et si je suis entré dans la vie religieuse, le travail intellectuel me permet d'aller vers la théologie et de pouvoir enseigner, aider ceux qui sont proches de moi et pour pouvoir me structurer aussi. Je me structure et donc je me rends libre des psychologues par le travail. C'est le travail qui me structure, le travail intellectuel. Un travail intellectuel fait avec intelligence, pas fait n'importe comment. C'est pour ça qu'il y a un directeur des études. Parce qu'on est incapable par soi-même de le faire. Incapable. On peut travailler comme une bête. On travaille mal. Alors ça ne structure pas. Il faut un travail intellectuel, bien structuré, pour pouvoir échapper aux psychologues. quelle mise et béatitude, bien heureux ceux qui ne sont pas psychanalysés. Et la finalité me permet d'éviter la psychanalyse. Mais si je n'ai plus de finalité, je tomberai lourdement dans le point de vue du fondement. Et ceux qui travaillent comme des brutes, c'est le fondement. Essayez de comprendre ça dans votre vie concrètement, pour que l'étude de l'éthique soit pour vous immédiatement pratique. L'éthique est immédiatement pratique pour nous. Ça nous donne un peu de lucidité. L'expérience de l'amour d'amitié. Alors, je ne vais pas reprendre cela, mais la première chose que je fais en éthique, c'est d'analyser tous les éléments qui sont dans l'amour d'amitié. L'amour spirituel, l'intention de vie, le choix, l'application de ce choix. C'est très riche, l'amour d'amitié. Et je m'aperçois que tous les éléments de l'acte humain sont présents dans l'amour d'amitié. Alors, l'amour d'amitié, c'est l'expérience qui me permet d'avoir en présence tous les moments de l'acte humain. Tous les actes humains, toutes les modalités de l'acte humain, toute la diversité des actes humains sont présents dans l'amour d'amitié. Alors, je fais l'analyse, puis je fais la contre-épreuve. Y a-t-il un acte humain qui n'est pas présent dans l'amour d'amitié ? Pour vraiment montrer que l'expérience de l'amour d'amitié me permet de structurer, d'analyser, de faire la philosophie de ce premier niveau éthique. L'éthique première de l'amour d'amitié. C'est l'éthique humaine par excellence. C'est-à-dire l'éthique humaine au premier niveau humain. Ce que nous avons fait l'année dernière. Et je vois que l'amour d'amitié ne peut être vécu que si, de fait, je lutte constamment contre l'imaginaire. L'imaginaire est l'ennemi numéro un de l'amour d'amitié. D'où l'exigence d'acquérir les vertus. Je ne peux être un véritable ami que si je suis vertueux. Et la vertu n'a de sens que pour l'amour d'amitié. N'a de sens premier, fondamental, que pour l'amour d'amitié. Si je suis colérique, n'ayant pas acquis la vertu de force, ma colère brisera l'amour d'amitié. Si je suis dans une concupiscence affolante, je n'ai pas la confiture du matin, je suis de mauvaise humeur toute la journée. Ça peut arriver. On arrive le dernier, il n'y a plus rien. Alors évidemment, on peut dire, on va aller à la cuisine. Si on est très vertueux, tu sens pas d'importance. Je révèle dernier. Aujourd'hui, je ne prendrai pas de confiture. C'est excellent d'être capable de ne pas prendre de confiture le matin. C'est excellent. Pas prendre de beurre, c'est excellent. Ça n'a pas d'importance, ce n'est rien. C'est secondaire. Oui, on maintient la vertu de tempérance. Et ça maintient la bonne humeur. Tandis que si vous êtes polarisé par le pot de confiture, il y en a qui sont polarisés par le pot. Je suis de mauvaise humeur toute ma journée. Je rencontre mon ami à la sortie. Espèce d'imbécile. Tu aurais pu prévoir quand même que je n'ai pas pris mon petit déjeuner ce matin et prévoir que j'ai de la confiture. Je prends ça comme exemple parce qu'il est gros. Alors vous comprenez tous les autres. Il faut toujours prendre des exemples très gros. Les exemples très gros remuent tout le reste. Pour que l'amour d'amitié puisse demeurer, il faut l'acquisition de la vertu de tempérance, de la vertu de force, de la vertu de justice, de la vertu de prudence. Il faut les vertus cardinales. Et les vertus cardinales naissent en vue de l'acquisition de la vertu, en vue de l'amour d'amitié, pour que je puisse découvrir l'ami. Vous voyez comment l'amour d'amitié va structurer, grâce aux vertus, l'éthique première, l'éthique humaine première, qui est finalisé par l'amour d'amitié. Tout homme est fait pour découvrir un ami. Tout homme est fait pour ça. Et un homme qui n'a pas découvert d'ami, il lui manque quelque chose. Il est mutilé. Tout homme est fait pour ça. C'est pour ça que le mariage est naturel. Le mariage, bien compris, où il y a un amour d'amitié. C'est pour ça qu'au-delà du mariage, il y a des amis, au-delà ou en dessous, peu importe, comme on le comprend, il y a l'amour d'amitié qui est ouvert à tous. La grâce ne détruit pas la nature. Et donc, l'amour d'amitié demeure. Il y a des éclosions magnifiques d'amour d'amitié dans la vie religieuse. C'est évident. Parce que, de fait, on trouve des individus, ne pas dire des personnes, des individus qui sont finalisés et qui deviennent intelligentes parce qu'elles sont finalisées, qui ne perdent pas de temps parce qu'elles sont finalisées. Premier niveau de l'éthique, commandé par l'amour d'amitié. Alors, c'est très important de réfléchir beaucoup là-dessus. Il y a un niveau d'éthique qui est commandé par l'amour d'amitié. Et qui est l'éthique de l'amour d'amitié. Donc, qui est l'éthique de l'éveil en moi de l'amour spirituel. Humainement parlant, vous savez bien, humainement parlant, être seul, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce que dit le vieil Aristote est très juste. Le solitaire, où il devient un dieu, où il devient un animal, le solitaire, humainement parlant, c'est très juste, où il devient un contemplatif. Mais comprenez bien, c'est pas la solitude qui fera contemplatif. Soyez contemplatif avant de choisir la solitude. C'est la contemplation qui finalise, c'est pas la solitude. La solitude est un moyen. C'est même pas une condition sine qua non. La solitude va accompagner normalement la contemplation pour que la contemplation aille jusqu'au bout. Mais la solitude n'est pas la contemplation. C'est pour ça qu'au début c'est si difficile d'être un peu dans la solitude. Parce que la solitude n'est supportable que grâce à la contemplation. Mais la solitude est merveilleuse pour vous montrer que vous n'êtes pas contemplatif. Alors on s'ennuie. On cherche tout de suite le petit copain. Parce qu'allons-y là, ouais, je pourrais bavarder. Je ne serais plus seul. La solitude nous pèse tant qu'on n'est pas contemplatif. Donc la solitude, c'est un baromètre merveilleux pour me montrer si je suis contemplatif ou pas. Le jour où je ne m'ennuie plus parce que je suis seul, j'ai découvert Dieu. J'ai découvert le primat de la solitude. Le travail intellectuel m'aide aussi à garder la solitude, ça c'est sûr. Parce que je dois travailler d'abord individuellement avant de travailler collectivement. Collectivité n'aide pas du tout le travail. Pas du tout. Et les socialistes ont découvert ça. Mais un socialiste impénitent croit toujours que c'est le social qui me fait travailler. Oh, pas du tout. C'est pas ça du tout. Il faut découvrir une vie. finalité autre que le moyen de la communauté pour découvrir l'amitié. Tout le monde sait ça. Et combien d'exemples on entend comme ça. Je connaissais un garçon extrêmement intelligent qui avait fait sa philosophie, qui avait la licence de philo, puis il était paresseux, ayant des dons extraordinaires, très grands, il était paresseux. Donc la licence suffit. Il rencontre une jeune fille, il devient fiancé, et la jeune fille dit, mon vieux, c'est pas bien, tu dois faire ton doctorat. Il s'est remis à travailler à cause de l'amour qu'il avait pour sa fiancée. C'est l'amour qui nous réveille et qui nous exige d'aller jusqu'au bout et de lutter contre notre apathie naturelle, notre fatigue naturelle. Je suis fatigué, comment voulez-vous que je travaille? Mais si vous aimiez, vous ne serez pas fatigué. Je ne veux pas dire que toute fatigue est le signe qu'on n'aime pas, hein, faisons attention. Mais l'amour nous donne une force nouvelle pour travailler. C'est très très important de comprendre ça. Oui, ça c'est tout simplement la philosophie, c'est pas la psychologie, c'est la finalité. La finalité nous aide à porter des quantités de choses. Tandis que si vous restez dans l'apathie, alors on appellera le philosophe. On appellera, je veux dire, le psychologue. Je connaissais un garçon qui, du jour où il s'est marié, c'était l'impossibilité pour lui d'aller à son travail le matin. Aboulique. Parce que c'était pas le véritable amour. Il avait aimé quelqu'un d'autre avant. Et elle aussi. Mais les familles ont voulu qu'ils se marient ensemble. Alors à ce moment-là, c'est pas commode. Au fond, il y a une réaction violente de rejet. On n'impose pas l'amour. On n'impose pas. Comme on n'impose pas une vocation. On n'impose pas. Alors à ce moment-là, il y a une réaction très très forte qui fait qu'on rejette. Et la force la plus forte, la plus grande pour rejeter pour nous, c'est la paresse. Vous savez, un âne batté, on peut taper dessus, il ne marchera pas. Et il y a un vieil âne en nous. Très bien, il ne faut pas travailler. Je rejette. Et là, on a les quatre pattes bien, on n'avance pas. Et on ne peut pas avancer. Parce qu'il n'y a pas l'amour. C'est extraordinaire de voir combien, au fond, seul l'amour nous permet d'avancer. Un amour qui nous prend, qui nous saisit l'intérieur. Donc, la première éthique humaine, elle est fondée sur l'amour spirituel. Et c'est l'expérience de l'amour d'amitié qui me permet d'étudier tous les moments de ma vie morale. L'amour spirituel, l'intention de vie, je passe du bien à la fin, le choix et entre deux le conseil et chaque période et puis l'exécution. Il y a quatre grands moments au point de vue éthique, l'exécution et la réalisation de l'exécution. Je suis auprès celui qui a été pour moi source d'un amour. Et je suis avec lui. Et je vis avec lui. Nous faisons œuvre commune. Le second moment de l'éthique, c'est cette éthique-là que nous verrons. C'est l'éthique humaine, religieuse. Voyez, essayez de comprendre ces trois niveaux d'éthique. L'éthique humaine, finalisée par l'amour d'amitié. L'éthique humaine religieuse, finalisée par l'adoration contemplative. ça. C'est la philosophie pratique où j'étudie ce que c'est que l'homme lié à sa fin. L'amour d'amitié, c'est l'ami qui est la fin. Dans l'éthique religieuse, c'est Dieu, créateur, qui est ma fin. Et dans l'éthique chrétienne, c'est le Christ, le Dieu sauveur, qui est ma fin. Vous avez trois niveaux d'éthique. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce que il y a trois finalités. L'amour, l'amitié, l'ami. C'est l'homme qui est ma fin. C'est Dieu, créateur, qui est ma fin. C'est le Christ qui me fait découvrir le Père. Le Dieu sauveur. Le Père qui finalise toute ma vie. S'il y a trois finalités et un seul, alors quel est le fondement? Le fondement de l'éthique religieuse et d'éthique humaine, c'est l'amour spirituel. Quel est le fondement de l'éthique chrétienne? C'est la grâce. Et que je regarde en philosophe, il y a un nouveau fondement pour l'éthique chrétienne. Mais ce nouveau fondement présuppose l'autre. C'est pour ça que je ne peux pas commencer l'éthique philosophique par l'éthique chrétienne. Parce que l'éthique chrétienne présuppose l'éthique religieuse, qui présuppose l'amour d'amitié. On verra ça très fort la fois prochaine. Il y a un ordre. Vous voyez, je vis d'abord en chrétien. Et étant chrétien, je découvre l'aspect religieux. Et en découvrant l'aspect religieux, je découvre l'aspect humain. Donc, au plan pratique de ma vie, je commence par les... J'ai été élevé dans un milieu chrétien. Si j'ai été élevé dans un milieu chrétien, c'est l'éthique chrétienne, puis l'éthique religieuse, puis l'éthique humaine. Mais au niveau philosophique, j'étudie d'abord l'éthique humaine, puis l'éthique religieuse, puis l'éthique chrétienne. Pourquoi? Parce que l'éthique chrétienne présuppose, la grâce présuppose la nature, présuppose